Bonjour. Alors, au titre, alors déjà, j'ai beaucoup de joie d'être avec vous. La dernière fois que je suis venu, il y a quelques mois de ça, c'était au début du projet immobilier. J'avais participé au culte, mais pour faire des photos, une petite vidéo, tout ça pour la communication de la fédération. Et voilà, ce week-end, le vivre autrement avec vous. Beaucoup de joie, en plus, il y a un certain nombre de visages que je connais plus particulièrement, notamment dans le travail à la fédération. Et justement, au titre de mon emploi, entre guillemets, de mon ministère à la fédération, au siège, je me sens aussi obligé, mais avec joie, de vous saluer au nom, non pas simplement de moi et de mon épouse, mais aussi au nom de l'ensemble de nos églises, d'une certaine façon, puisque c'est le fait de travailler au siège. En vous saluant du siège, c'est aussi d'une certaine façon de l'ensemble de nos églises, l'occasion de rappeler que voilà, nous sommes une grande famille et que c'est aussi quelque chose d'important à avoir en tête et à essayer de vivre au maximum ce lien fédératif qui nous unit, qui nous permet aussi un certain nombre de choses très pratiques et puis qui nous donne aussi de vivre un peu de ce qu'est l'Église, finalement, au-delà de notre propre communauté, et bien plus largement. En tout cas, beaucoup de joie à être avec vous, et ce matin, tu peux lancer, ouais. J'aimerais vous parler d'un texte. Alors, j'ai mis comme titre à... On va attendre que ça vienne. J'ai mis comme titre à cette prédication... vous avez dit transfiguration avec un point d'interrogation parce que on va questionner un petit peu cette question de la transfiguration. Moi, j'aime régulièrement utiliser dans la prédication, vous savez, ce qu'on appelle les textes du jour. Ce sont ces textes qui figurent dans une liste de lectures proposées aux églises. Une liste liturgique pour les dimanches, utilisée d'ailleurs dans énormément d'églises, la même dans l'église catholique, dans l'église protestante, dans énormément de nos églises évangéliques. Et d'ailleurs, pour ceux qui utilisent le guide de lecture de la Bible en 6 ans, qui est édité par l'Alliance biblique, il y a des lectures pour tous les jours, et pour les dimanches, il y a ces fameux textes du jour, un texte de l'Ancien Testament, un psaume, un texte du Nouveau Testament et un texte de l'Évangile. Et j'aime bien personnellement, régulièrement, aller puiser dans ces textes proposés pour le dimanche. On le fait au niveau de la Fédération avec un verset tiré de ces textes aussi chaque dimanche et une image qu'on publie sur les réseaux sociaux. C'est aussi une façon finalement de vivre l'unité de l'Église. C'est un exercice stimulant en fait pour un prédicateur de s'imposer un texte sur lequel je dois réfléchir, je dois chercher la pensée de Dieu pour la transmettre. Et puis, je crois que derrière, en tout cas pour moi, c'est nourrir l'idée que le Saint-Esprit peut nous parler librement, justement, sans que j'aie forcément besoin d'aller chercher ce qui me convient. Chercher le texte qui me plaît et sur lequel j'ai envie de parler. Mais de laisser finalement le texte venir à moi et le Saint-Esprit aussi accompagner cela pour révéler des choses. En tout cas, c'est ce que je voudrais vous proposer ce matin avec ce texte de l'Évangile qui, en plus, se trouve être, ça tombe bien, un texte que j'aime beaucoup, et que je trouve être un moment fondamental dans le cheminement de Jésus sur cette terre. Alors, on va le lire et puis on va en reparler après. Il se situe donc dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 17, les versets 1 à 9. Alors, je ne sais pas si vous arriverez à lire sur l'écran, si vous avez vos Bibles, vous pouvez les prendre et lire, vos iPhones ou smartphones pour regarder, ou simplement écouter, c'est aussi agréable d'écouter le texte biblique, tout simplement. Faites comme vous le voulez. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, Il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ses paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus, seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Alors vous savez que c'est un épisode de la vie de Jésus qui finalement passe assez inaperçu. Je m'en suis rendu compte. D'ailleurs, on a fait encore hier l'exercice. On avait le comité enfance et jeunesse à la Fédération et Émilie, qui animait le petit temps de méditation pour ouvrir, nous a fait travailler, tous ceux qui étaient là, en nous posant la question « Citez-moi un récit de la vie de Jésus qui vous a marqué. » Alors, chacun a pu évoquer un texte, un épisode de la vie de Jésus. Aucun n'a mentionné ce texte. Et je suis sûr que si on faisait cet exercice avec vous, avec énormément de chrétiens, je ne dis pas qu'aucun le mentionnerait, mais sans doute très peu mentionneraient ce texte. Il n'est peut-être pas, vraisemblablement comme ça, en apparence, un texte qui nous marque autant que d'autres. Et pourtant, à mon avis, j'aime à dire, en tout cas, c'est un avis purement personnel que je ne vous demande pas d'adopter, mais je vous le partage, que s'il fallait résumer la vie de Jésus, on pourrait citer en fait ces différents moments. Alors, le baptême, la transfiguration, la passion avec la résurrection et l'ascension. Pour moi, ce sont cinq moments vraiment fondamentaux du ministère du Christ. Et que tout ce qu'il y a entre, les miracles, les paraboles, les béatitudes, les paroles, les rencontres de Jésus, sont autant d'œuvres et de paroles bonnes de Jésus que je ne minimise absolument pas, bien au contraire. Mais que c'est dans ces cinq événements, sans doute, que se trouve finalement l'accomplissement du ministère du Christ. Et la transfiguration étant un point charnière de bifurcation dans son cheminement, avec une nouvelle direction qui est prise, c'est celle de se diriger vers Jérusalem et vers la croix. C'est un texte que l'on trouve dans trois évangiles, dans Matthieu, dans Marc et dans Luc. Alors, on l'a lu dans Matthieu. Les autres évangiles permettent aussi d'avoir d'autres informations sur cet événement, une autre façon de le raconter, et viennent compléter. C'est un texte que l'on intitule classiquement celui de la transfiguration. C'est une habitude qui remonte en fait à la traduction latine de la Bible. Dans le texte grec, le verbe qui dit la transfiguration de Jésus, c'est « métamorphoumai », qui devient « métamorphosé ». Et par conséquent, moi, je vous propose ce matin de parler davantage de métamorphose. Parce que nous serons plus proches du texte biblique, d'une part, mais bon, c'est pas le plus important pour moi, là, dans mon approche, mais c'est que nous serons aussi plus proches aussi de notre vie quotidienne, où finalement, il n'est jamais question de transfiguration, en tout cas, je l'ai rarement vu, mais par contre, de beaucoup de métamorphose. Moi, c'est un thème, la métamorphose, que je trouve vraiment captivant. Et j'ai même écrit d'ailleurs un livre il y a quelques années sur les recommencements qui s'appelle Malléable, pour tout recommencer, dans lequel justement, finalement, la question de la métamorphose que l'on est amené à vivre aussi, nous-mêmes, dans nos vies, est bien présente. J'en profite pour faire une petite pub, parce que je vais oublier après. On a mis une table au fond avec, il y a ce livre, il y a aussi le dernier livre que j'ai écrit, qui résonne particulièrement aujourd'hui, c'est une biographie d'Aretha Franklin sur sa vie, sa foi et ses combats, et aujourd'hui, journée des droits de la femme. C'est une histoire qui est particulièrement intéressante, avec certains de ses combats autour de cela, mais beaucoup d'autres, notamment ceux à côté de Martin Luther King, pour les droits civiques, et tout son engagement spirituel qui a accompagné toute son existence. Puis on a amené aussi quelques-uns des CD qu'on a pu enregistrer avec mon épouse. Et voilà, et vous pouvez même payer avec une carte bancaire parce qu'on a un petit appareil qui le permet. C'était la page pub, on arrête et on continue. Donc pour moi, la métamorphose, c'est quelque chose voilà, qui nous rapproche de ce texte, qui nous permet aussi de ramener cet épisode des évangiles dans notre quotidien plutôt que d'en faire simplement un événement un peu surnaturel, sympathique, mais qui ne serait pas si essentiel que cela alors. Mais en même temps, histoire de ne pas faire trop simple non plus, je vous propose non pas de nous en tenir à une métamorphose, c'est pour ça qu'il y avait ce point d'interrogation d'ailleurs dans le titre, la métamorphose de Jésus, mais d'observer qu'il y a aussi dans ce récit finalement une triple métamorphose. En tout cas, c'est comme ça que je vais essayer d'aborder la question avec vous, celle du Messie, celle des Écritures et celle des disciples. Alors on va commencer par cette première métamorphose. Et vous l'avez remarqué en entendant le texte lu ce matin, il commence par indiquer que nous sommes 6 jours après. Et c'est important quand on a une indication comme cela au début d'un texte, surtout quand c'est le début d'un chapitre, donc on plonge directement à ce moment-là du texte, et une indication de la sorte nous est donnée. 6 jours après. Alors 6 jours après quoi ? Mais 6 jours en fait après une explication qui s'est déroulée entre Jésus et Pierre sur l'identité de Jésus et sur le pouvoir de pardonner qui est confié à Pierre dès à présent et non dans un monde après la mort. On trouve ça dans Matthieu 16, 19. C'était d'ailleurs le texte sur lequel le pasteur où j'étais dimanche dernier à Poitiers prêchait. Parce qu'il fait partie justement de la Bible en 6 ans. Alors, non pas dans les textes du dimanche, mais dans ceux proposés en plus dans la lecture quotidienne. Mais vous verrez que ce n'est pas anodin, tout ça. On est donc 6 jours après cet événement. Vous savez, c'est ce moment où il y a cette question qui vient de Jésus. Qui dites-vous que je suis ? Et Pierre va dire « Tu es le Christ. » Et Jésus, là, va lui dire cette fameuse phrase « Tu es Pierre, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon Église. » Et vient donc cette question du pardon, le pouvoir de pardonner. Après, ça continue et ça se passe un peu moins bien pour Pierre. Jésus va le traiter de Satan, juste après. Je ne vais pas vous faire la prédication du pasteur du dimanche dernier, mais voilà, vous pourrez relire ce texte parce qu'il se déroule donc 6 jours avant. Et puis, si on réfléchit un peu plus et qu'on va dans l'Ancien Testament, on va se rendre compte qu'une séparation de 6 jours est présente aussi dans l'Ancien Testament avec des choses, tiens, qui résonnent avec ce qu'on est en train de voir là. Il y a dans Lévitique 23, versets 27 à 34, la fête des tentes, Soukhot, qui se passe eh bien, précisément 6 jours après une autre fête, celle de Kippour, c'est-à-dire la fête du grand pardon. C'est intéressant d'avoir 6 jours avant une question de pardon, 6 jours après, donc une question de tente. Parce que justement, dans notre récit de la transfiguration, il va aussi être question de tente. Et finalement, en pensant à tout cela, on peut se demander quel est l'intérêt de placer par Matthieu, là, dans ce récit, la métamorphose, la transfiguration, le jour de la fête des tentes. Eh bien, je crois que l'intérêt, c'est de montrer comment Jésus réagit à la fête des tentes, qui est justement, dans la tradition juive, un temps favorable pour l'arrivée du Messie. Un Messie qui doit venir pour sauver la nation. Cette fête des tentes est instaurée après le départ d'Égypte. Et elle vient fêter la libération d'Égypte, c'est-à-dire l'arrivée d'un Messie pour le peuple d'Israël, Moïse, qui est venu libérer le peuple de l'esclavage du Pharaon. Et l'attente du messianisme national, c'est particulièrement fort dans cette fête de Soukhot. Matthieu indique de quelle manière, finalement, Jésus va répondre à cette attente messianique. et il le fait de façon étrange, il va se mettre à l'écart sur une montagne, avec ce qu'on pourrait appeler peut-être ses proches, sa garde rapprochée, ses intimes, quelques-uns qui montent là avec lui. C'est-à-dire que Jésus commence, lui qui est le Messie, par décevoir l'attente du peuple. Alors vous savez, ça c'est assez classique avec Jésus, et je dirais même avec Dieu, de ne pas être là où on l'attend, de se comporter différemment de ce qu'on voudrait faire de lui. Souvent, quand on ouvre la boîte dans laquelle on a essayé de mettre Dieu, on se rend compte que la boîte est vide et qu'il est ailleurs. Il n'est pas là où on croit. Mais à vrai dire, Jésus fait encore plus que cela. En fait, il ne succombe pas à la tentation du pouvoir. Il ne succombe pas aux sirènes qui lui font miroiter la puissance et la gloire que le Messie devrait avoir. On va encore s'amuser avec les textes, une seconde. C'est que l'évangéliste Matthieu, là, prend soin de construire cet épisode en écho aussi à la troisième tentation du Christ, qu'il avait connue dans le désert, juste après son baptême. Et c'était, pour la petite histoire, justement le texte de l'évangile de dimanche dernier, celui de la tentation. Et ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'on avance et qu'il y a des résonances à tout cela. C'est aussi pour ça que c'est intéressant parfois d'utiliser une liste de lecture pour lire le texte et découvrir le texte. Alors, ce récit de la tentation, eh bien Jésus avait été transporté par le diable sur une haute montagne, dans une situation un peu équivalente à celle du chapitre 17, finalement. Il est là-haut, sur la montagne. Et il lui avait montré tous les royaumes du monde et leur gloire attachée. Et Jésus n'avait pas cédé, il avait rétorqué à Satan, « Retire-toi, Satan !» C'est un petit peu comme il le fait avec Pierre dans le fameux récit dont je vous parlais aussi. Phrase qu'il avait dit donc à Pierre au chapitre précédent, quand on était à la fête de Kippour, à la fête du pardon. Et tout cet ensemble se retrouve encadré par la formule d'adoption qui retentit au baptême, aussi bien que sur cette montagne de la Transfiguration, juste après, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Vous voyez comment les choses se recoupent. C'est passionnant finalement, et la Bible est passionnante. Matthieu fait référence de deux manières à la tentation du pouvoir. Tentation donc à laquelle Jésus ne cède pas. Jésus ne sera pas finalement un messie à la manière de ceux qui prétendent être sauveurs du monde et qui n'ont en tête finalement que la gloire, que le pouvoir, que la domination. Non, il sera, et ce sera la première métamorphose du messie, Jésus sera définitivement messie à la manière du serviteur souffrant. Sans aucune autre puissance que l'amour et l'esprit de service. Et c'est fondamental. Rappelez-vous, c'est là que le chemin de Jésus va prendre une nouvelle direction et qu'il va se diriger vers la croix, vers Jérusalem. Alors, ce n'est pas très spectaculaire de venir comme un messie de la sorte, mais c'est ainsi, en fait, qu'il est vraiment possible d'agir pour la liberté de ceux qui nous sont confiés. Ce n'est pas en cherchant à les dominer, à prendre le pouvoir pour eux, sur eux, mais c'est en venant comme prêt à les servir, et même à souffrir pour cela. Et tout dans cette attitude fait de Jésus finalement un homme libre qui ne cède pas à ce qu'on voudrait faire de lui. Jésus métamorphose le messianisme qu'on espérait national à l'époque en une attitude personnelle, celle de l'homme libre, profondément libre. Jésus est détaché de cette tentation du pouvoir, il est détaché du camp d'Iraton, libre de faire tout ce qui lui semble juste et bon, indépendamment de toute autre considération. Alors on peut noter au passage aussi que la métamorphose de Jésus se distingue des autres métamorphoses que l'on peut trouver notamment dans la mythologie grecque. Alors je vous ai mis deux images, il y a celle de Daphné qui se métamorphose en laurier et Arétus qui se transforme en fontaine. Ben heureusement, ce n'est pas le cas de Jésus. Heureusement. Non, avec Jésus, ça se passe autrement. C'est beaucoup plus intéressant, finalement. Jésus devient qui ? Ben, il devient lui-même encore plus, finalement. Il évolue dans ce qu'il est pour être encore plus ce qu'il est. Et ce qui correspond d'ailleurs beaucoup plus au sens de la métamorphose, comme on l'a vu avec la chenille qui devient papillon. Comment ne pas dire avec Matthieu qui précise dans le texte que son visage resplendit comme le soleil. Finalement, que cette personne de Jésus est portée à son incandescence. Il voit Jésus autrement dans une forme de plénitude de ce qu'il est profondément. Un Jésus qui rayonne dans ce monde, en haut de cette montagne, et qui me fait évidemment penser à... Je vais faire de la pub, je travaille au siège de la Fédération, donc voilà, c'est notre thématique de l'année, une église qui rayonne dans le monde. Et finalement, cette transfiguration, cette métamorphose nous ramène à ça, ce rayonnement de Jésus. Ce sera le thème de la Convention nationale aussi, à laquelle je vous invite tous. Un beau moment à vivre ensemble. Je vous ai parlé de plusieurs métamorphoses. Il y en a une deuxième qui est très intéressante. C'est celle de la Bible, celle des Écritures. Alors, elle n'est pas évidente comme ça, peut-être. Dans ce récit, il nous est parlé de deux hommes qui viennent apparaître aux côtés de Jésus, c'est Moïse et Élie. Alors, vous le savez peut-être, ce sont deux figures emblématiques du Premier Testament. Moïse pour le Pentateuque, la Torah, la loi, et Élie pour les prophètes. Et dire Moïse et Élie, c'est dire finalement la loi et les prophètes, ce qui est une manière finalement de nommer la Bible hébraïque. Ce qui vient après, toute la troisième partie, les écrits, la sagesse, tous ces textes, n'ont pas encore de figure représentative à l'époque. Alors, ce n'est pas évident forcément pour nous, tout ça. Un peu comme la séparation des six jours, ces fêtes, tout ça, ce n'est pas dans notre culture. Mais pour ceux à qui Matthieu écrit, c'est une évidence. C'est leur base, c'est leur fondement. Et tout cela est bien compris, il faut avoir ça en tête. Et alors, que fait Pierre en évoquant, en voyant, ces deux figures apparaître avec Jésus? Eh bien, il propose, et on en revient à Soukhot, de faire trois tentes, de mettre trois tentes, une pour Moïse, une pour Élie et une pour Jésus. Et finalement, Pierre propose en gros, métaphoriquement, de fixer les trois grandes figures ici, là, devant lui, là où il se trouve. Il est bon que nous soyons ici, dira-t-il. Et il veut s'installer. Il veut figer cela précisément à l'endroit où ils sont. Alors, pour revenir à Soukhot, cette fête des tentes, c'est le souvenir, je vous ai dit, de la sortie d'Égypte. Et si on parle des tentes, c'est parce que c'était des habitations précaires, justement. La tente, c'était l'habitation des nomades, de ceux qui ne se fichent pas en terre, de ceux qui sont en route constamment. J'ai failli dire en marche, mais bon, en ce moment, c'est... Voilà. La tente est la demeure idéale pour ne pas demeurer, pour ne pas se fixer quelque part. Pour être prêt au départ, c'est ce que les scouts utilisent aussi, par exemple, parce qu'ils se déplacent, prêts à poursuivre la route, toujours, encore et encore. Et Pierre, sans s'en rendre compte, est en train, en fait, de pervertir l'attente, le sens de l'attente, en en faisant un lieu définitif, un lieu où on se fixe, où on s'arrête, où on se pose une fois pour toutes. Pierre pose, en fait, là que la loi et les prophètes et ce que représente Jésus devrait être institué, figé une fois pour toutes. C'est souvent un peu le désir de l'homme, ça, de fixer les choses, de les encadrer précisément, de les mettre à un endroit, de mettre une étiquette, de mettre un cadre, et puis voilà, c'est là, on le sait, et ça ne bouge plus. Et Jésus ne va pas aller dans ce sens-là. Au contraire. Alors qu'ils sont là, face contre terre, eh bien Jésus va les relever. C'est important, cette notion de relever ceux qui sont là à terre, avec en plus cette idée de figer les choses. Dieu les relève, et pour faire écho à ce qui a été dit en introduction du culte, il va leur dire « N'ayez pas peur ». C'est marrant comment la peur nous pousse souvent à fixer les choses, à les positionner, à les installer, et à ne plus trop bouger. C'est marrant comment, finalement, le mouvement peut nous faire peur. L'incertitude, l'inconnu. on vit quelque chose, on expérimente quelque chose et on le fige une fois pour toutes parce qu'au moins ça, on le sait, on le connaît, on le maîtrise et on est un peu plus en sécurité. Alors que changer, bouger, tout à l'heure on parlera des changements qui sont les vôtres en ce moment, ça peut faire peur, ça peut inquiéter. C'est pas facile finalement, c'est pas le plus simple. Et Jésus leur dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Parce que finalement, ça n'est pas dans l'attente que je vous attends. Et ça n'est pas là que je vous veux. Mais c'est au milieu des autres, en bas. Et le texte finit avec Jésus et ses trois compagnons qui redescendent et qui repartent finalement dans une nouvelle direction, au cœur du monde. Pour ne pas simplement rayonner sur la montagne, mais rayonner dans le monde. Rayonner partout où ils ont besoin d'être et où le monde finalement les attend. Jésus ne deviendra donc pas un livre, une partie de la Bible, comme la parole qui a été prononcée justement au baptême et qui est redite là, la mention qui est précisée, ça n'est pas de lire Jésus, mais c'est de l'écouter. Écoutez-le. Ça change bien des choses, ce n'est pas dans un texte que nous allons trouver l'évangile finalement, la bonne nouvelle, mais c'est dans l'écoute. Permettez-moi de dire en fait que l'évangile c'est avant tout dans l'oreille de celui qui écoute, que l'on va le trouver. La bonne nouvelle s'incarne, elle n'est pas une philosophie, elle n'est pas une religion de la connaissance, elle est une expérience qui se vit, qui se partage. Je vous ai évoqué trois métamorphoses. On va finir rapidement avec cette troisième métamorphose qui concerne cette fois-ci les disciples. Et finalement, c'est pour eux que la véritable métamorphose, d'ailleurs, va se dérouler. Jésus, nous l'avons vu, n'a été finalement que lui-même, un peu plus lui-même. Les disciples, eux, vont être véritablement métamorphosés par ce qui se passe là. Et plus particulièrement, c'est leur vision, leur regard qui va être transformé. C'était déjà arrivé dans le passé, justement avec quelqu'un qui est là sur la montagne, avec Moïse. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 34, le visage de Moïse va rayonner aussi. Une forme, là encore, de métamorphose, de transfiguration. En tout cas, c'est comme cela qu'il va être vu par ceux qui sont en train de le regarder. Il y a un problème de traduction, d'ailleurs, dans cette histoire de l'Exode, qui a métamorphosé Moïse en homme avec des cornes dans la culture, dans plusieurs peintures, et puis aussi dans l'œuvre de Michel-Ange, dans la sculpture de Michel-Ange. Un homme avec des cornes, parce que, en fait, rayonner, c'est en hébreu le verbe karan, qui a été transformé, qui est devenu cornatus. Et donc, on a pensé que Moïse était cornu. Alors, rassurez-vous, quand je vous dis que notre thématique annuelle s'est rayonnée, elle ne cherche pas à nous faire porter des cornes, mais bien à porter la lumière autour de nous. Toujours est-il que les disciples, ou les Hébreux autrefois, vont changer de regard sur la situation, vont voir Moïse dans l'Ancien Testament et Jésus cette fois-ci autrement. Vont découvrir avec lui quelque chose de nouveau. Ceux qui regardent hier Moïse ou aujourd'hui Jésus vont les voir d'une nouvelle manière, comme jamais. Et cela nous arrive finalement à chaque fois que nous découvrons un nouveau trait de personnalité chez quelqu'un. Et les disciples vont découvrir là, avec Jésus, un homme libre, comme je le disais, qui ne cède pas à la tentation du pouvoir, qui est pris de justice par-dessus tout, par-dessus même ses intérêts personnels. Le choix de se diriger à cet instant vers la crucifixion, c'est justement laisser à terre tous ses intérêts personnels pour choisir de devenir le serviteur souffrant. Les disciples vont découvrir que Jésus ne court pas après les honneurs ou les premières places, qu'il ne cherche pas à prendre un poste, il agit inconditionnellement, il aime inconditionnellement. Et cela va renouveler considérablement leur regard sur sa personne. Ils vont voir Jésus riche d'une nouvelle qualité, insoumis à la force du pouvoir, ayant refusé de vendre son âme au diable pour obtenir un poste au gouvernement après son baptême. Il ne mettra pas non plus en place de théocratie, de dictature, en quelque sorte. Ils vont découvrir un homme qui n'a qu'une ambition, c'est servir, c'est aimer. Et ça va tout changer pour eux, finalement. Mais ça va tout changer de façon progressive, parce que tout ne va pas se faire là. Il leur faudra ensuite ce qu'on pourrait considérer pour eux une forme d'électrochoc de la crucifixion. Les disciples vivent une métamorphose qui ne s'accomplira complètement que dans l'aurore pascale. Et rappelez-vous, c'est le début de cette direction qui nous conduit vers Pâques. Pour le moment, ils ne peuvent pas encore parler de résurrection pleinement. Il y a des vieux réflexes conditionnés qui sont encore là. On l'a vu juste dans le chapitre avant avec Pierre qui quand Jésus commence à annoncer qu'il va vivre la mort, lui dit non, Dieu t'en préserve. Non pas une façon de dire les choses, mais en prenant en quelque sorte le pouvoir sur Jésus et en se plaçant même dans la volonté de Dieu, et Jésus lui dira retire-toi de moi, Satan, avec une parole très forte là. Et donc, ces réflexes conditionnés sont encore là et vont conduire même Pierre ensuite encore à trahir 3 fois Jésus au moment de la crucifixion. Vous voyez que ce n'est pas simple de changer. Ce n'est pas simple parfois d'être métamorphosé dans ce que nous sommes, d'être transformé dans notre nature profonde. Mais pourtant, les choses vont se faire, continuer à se faire, et elles se feront parfaitement. Pierre n'est pas encore libre totalement, pas libre encore de la peur, justement, de la peur de la mort, de la peur du changement, de la peur de l'abandon. Les disciples ont juste été relevés par Jésus, remis en marche, relevés de leur frayeur du moment, relevé de leur égoïsme aussi, parce qu'en voulant planter les tentes là-haut, c'est aussi oublier les autres, et même leurs compagnons les plus proches, les autres disciples. Relevé de leur envie de s'installer, de se poser et d'arrêter. Ils ont vécu là un début de résurrection, mais le meilleur est encore à venir. Alors j'en arrive à la fin de ce que je voulais partager avec vous, et je voudrais terminer maintenant finalement, en parlant un peu de vous, juste quelques instants, de ce que vous êtes en train de vivre, parce que en travaillant sur ce texte du jour, en arrivant au bout, je me suis dit, mais finalement, c'est un texte qui est très intéressant dans le contexte aussi qui est celui de l'église de Clermont-Ferrand, de ce que je connais en tout cas, avec en particulier ce changement de lieu. Une nouvelle maison, un nouveau temple, un peu mieux qu'une simple tente quand même, hein, non ? D'accord avec moi, on va aller voir l'évolution là dans quelques instants avec Eric, mais je sais que c'est bien plus qu'une simple tente. Et si je vous partage ça, c'est parce que c'est quelque chose que moi aussi j'ai vécu personnellement. J'ai été pendant un peu plus de 10 ans pasteur à Poitiers et on a vécu exactement la même chose que vous, et d'ailleurs avec une certaine similitude, parce que c'est pas tout à fait le même bâtiment, mais il y a quand même des choses qui nous rapprochent dans la forme de ce bâtiment et puis dans la façon dont se vivent les choses. Changer de lieu, changer d'église, changer de temple, c'est quelque chose qui compte dans la vie d'une église. Et moi, j'avais envie ce matin, finalement, en réfléchissant à tout ça, de vous dire que, et de vous encourager surtout, à vivre ces moments comme une vraie métamorphose. Une métamorphose qui est en train de... dans laquelle vous êtes en train de passer, et d'avancer en vivant cette métamorphose dans cette conscience que Jésus est celui qui nous met et nous remet en route constamment. Et que l'installation, finalement, n'existe pas véritablement. Alors là, c'est peut-être la mauvaise nouvelle du jour. Vous arrivez au bout des travaux, et peut-être que vous vous dites finalement, ça y est, on va pouvoir enfin s'installer. On va pouvoir se poser. Et finalement, la mauvaise nouvelle devient la bonne nouvelle, au sens du mot évangile. Cette bonne nouvelle qui est celle qui vous est encore annoncée ce matin et qui le sera jour après jour, c'est que l'évangile, nous, vous, rend libre. Et elle nous permet de changer de regard sur les choses et sur ceux qui sont là tout autour de nous, en particulier en bas de la montagne. Et ça tombe bien, ici à Clermont-Ferrand, avec ces jolies montagnes autour. Pas forcément des très très hautes montagnes, mais quand même, ça donne du relief là autour de Clermont. Mais ce n'est pas en haut de la montagne qu'on est attendu, c'est en bas, c'est ici, c'est là où vous êtes. Et que finalement, en s'installant dans ce nouveau local, finalement, c'est juste un point d'accroche, un point d'attache. C'est un outil qui devient peut-être plus facile, plus agréable, plus confortable, plus aisé pour faire un certain nombre de choses, mais justement, qui est un outil juste fait pour aimer et servir. Et que le changement de rue, le changement de lieu, va juste vous permettre de vous incarner encore un peu plus, comme des disciples rayonnants de l'amour de Dieu, des disciples en marche à la suite du Christ, des disciples qui justement ne s'installent pas quelque part, mais qui restent toujours sur la route, à aller à la rencontre de celui qui a faim, de celui qui a soif, que ce soit de façon physique comme spirituelle, de celui qui a besoin de recevoir cette bonne nouvelle. À l'image aussi de ce serviteur souffrant qui ne cherche pas à prendre un pouvoir quelconque sur qui que ce soit, mais juste à aimer. Alors c'est ainsi que le Seigneur construit son Église, et c'est ainsi qu'il l'a construit, je crois, avec vous. Et c'est ainsi qu'il veut le rappeler, je pense, encore ce matin. Cette métamorphose, rassurez-vous, elle est progressive et elle est constante, et elle sera jusqu'au bout. Mais nous sommes appelés à continuer encore et encore, à vivre notre identité de chrétien de la sorte. Non pas là-haut sur la montagne, ça fait du bien des fois d'y passer, d'y vivre quelque chose d'un peu exceptionnel, mais de la vivre surtout en bas de la montagne, au milieu de ce monde, et de savoir aimer, de savoir rayonner de cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, c'est extraordinaire finalement comment des textes aussi anciens peuvent venir faire écho à nos situations d'aujourd'hui, à notre quotidien, que ce soit en tant qu'Église, mais aussi dans nos vies personnelles. Et finalement, c'est toujours le cas avec toi, parce que ce texte est vivant, ce texte n'est pas figé et à lire, mais il est à écouter et il est à vivre, il est à recevoir, il est à se, là pour nous nourrir, pour nous permettre d'être et de faire ce que tu attends de nous, Seigneur. Seigneur, ce matin, j'aimerais en particulier prier pour cette communauté locale à Clermont-Ferrand, Seigneur, et demander ta bénédiction sur elle, tout particulièrement dans ces temps vécus. Seigneur, que toutes les peurs qui peuvent venir si facilement s'installer, justement, ne se fichent pas, ne s'installent pas, ne forgent en tout cas pas des décisions, quelles qu'elles soient. Que ce ne soit jamais par la peur que nous avancions, mais que ce soit par notre foi, notre amour pour toi et notre amour pour ce monde. Seigneur, que cette réflexion ce matin puisse être là comme du carburant peut-être pour notre foi, être là comme un moteur pour nous donner envie d'aller de l'avant, d'avancer. Nous réjouir de ce que tu nous donnes, nous réjouir des expériences parfois surnaturelles, miraculeuses par lesquelles tu nous permets de passer. Et ce local est un cadeau de ta part pour cette communauté et la preuve aussi du miracle que tu nous permets de vivre, je le crois. Mais non pas pour nous installer et nous reposer, mais au contraire pour être renouvelés dans notre mission de disciples et de serviteurs. Seigneur, que cet encouragement-là soit une réalité pour toute cette communauté et chacun en particulier dans sa situation personnelle, dans ce qu'il est, dans sa façon d'être et de voir les choses, Seigneur. Je t'en prie. Et j'aimerais ajouter aussi, Seigneur, que ce matin soit l'occasion peut-être pour plusieurs de pouvoir être très concrètement, justement dans leur situation personnelle, sentir ta main les relever, les remettre en marche, sentir ton amour se manifester là dans ce relevage, dans, dans cette façon d'être vis-à-vis de nous, de sentir ta main et ton amour se manifester et de pouvoir réouvrir les yeux et voir les choses autrement, différemment, de notre prostration sur le sol, pouvoir être relevé, mis debout et voir ainsi notre vision changer, être transformée. Et que ce ne soit pas la peur, la douleur, toutes sortes de sentiments qui peuvent nous donner de nous figer et d'arrêter notre marche, qui puissent l'emporter, mais au contraire, tout ce que je viens d'évoquer qui vient de toi et qui nous permet d'aller de l'avant à nouveau, Seigneur. Merci Père, en Jésus-Christ, ton Fils. Merci pour cette façon d'être, cette façon aussi d'avoir choisi d'être avec nous ici sur cette terre. Merci pour ton amour, tout simplement. Amen.